Bonsoir à tous. Bienvenue à cette 42e soirée d'éthique publique, la 7e de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue aussi à nos amis, c'est maintenant un heureux rendez-vous qui sont reliés par l'image et le son à Bordeaux, à l'église Notre-Dame-des-Anges et à Lyon, à l'espace Saint-Ignace. Je rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire au secrétariat ou à l'accueil si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre, de même qu'il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée, de toutes les soirées précédentes, d'ailleurs, sur le site internet du Centre Sèvres. Le mois dernier, nous nous sommes interrogés sur l'état de la médecine en France. La médecine doit-elle et peut-elle rester un service public ? Avec la présence du professeur Didier Houssin, ancien directeur général de la santé et président du Conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, et du professeur Guy Valencien, professeur d'urologie à l'Université René Descartes Paris 5. Et nous avions annoncé comme thème pour ce soir celui de la place de l'école catholique dans notre pays. Évidemment, l'actualité nous a invités à modifier notre programmation. Nous devrions, sauf événement imprévu, retrouver ce thème de l'école catholique le prochain mardi d'éthique publique. Le rôle de l'école catholique, son rôle particulier dans l'enjeu de l'éducation de notre pays, quelle est finalement la contribution spécifique de l'enseignement catholique pour le devenir de l'école en France. Ce sera une soirée en partenariat avec la revue Projet, éditée par le CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale animé par les Jésuites, dont le numéro du mois d'avril a pour titre « École catholique, école publique ?» Et pour nous aider à réfléchir, nous accueillerons notamment François Dubé, qui est universitaire à Bordeaux, et sans doute M. Éric Delabarre, le secrétaire général de l'enseignement catholique. Alors ce ne sera pas, comme le veut la tradition, le premier mardi du mois, puisque ce premier mardi, le 7 mai, tombe dans les vacances universitaires et scolaires, mais ce sera le mardi suivant, le mardi 14 mai à 19h15, comme d'habitude. Alors ce soir, c'est l'actualité de l'Église qui nous rassemble, qui nous réunit. L'Église qui vient de vivre des moments très importants. Après la renonciation courageuse de Benoît XVI, l'élection du nouveau pape François, premier souverain pontife issu du continent américain, cette élection qui attire beaucoup de sympathie par notamment son attitude modeste et simple. On sent bien que des attentes fortes se manifestent vis-à-vis de l'Église, chez les catholiques eux-mêmes et en dehors de l'Église, que les sujets importants ne manquent pas pour le nouveau pape, outre la remise en ordre peut-être de la curie. Le nouveau pape doit notamment faire face à l'immense chantier de l'évangélisation et plus largement, du dialogue avec le monde. Le nouveau pontificat, nous invite évidemment à réfléchir à la mission de l'Église aujourd'hui. Comment parler de Dieu à ce monde? Quelle Église pour notre monde? Alors, pour nous aider à réfléchir à toutes ces questions, réfléchir ensemble au chantier du nouveau pontificat, je suis heureux d'accueillir nos trois invités. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est évêque auxiliaire de Paris. Après des études en sciences politiques et en sciences économiques, vous êtes entré au séminaire de Paris, si je ne dis pas de bêtises, en 1985, avec un temps d'études notamment à Bruxelles chez nos compagnons jésuites de l'Institut d'études théologiques, et puis à Rome au séminaire français et à l'Institut catholique de Toulouse. Docteur en théologie, vous avez été ordonné prêtre en 1991 et vous avez été engagé de nombreuses années dans la formation des futurs prêtres, enseignant à la faculté Notre-Dame de l'école cathédrale. Vous avez été également aumônier du collège Montaigne, puis du collège Louis-le-Grand, curé de la paroisse Saint-Paul-Saint-Louis, l'ancienne église de la compagnie, tout en enseignant toujours à l'école cathédrale. Vous J'exercerai cette fonction de curé pendant 5 ans avant d'être nommé secrétaire particulier de Mgr André 23, tout en conservant votre ministère d'enseignement. Et vous êtes nommé évêque auxiliaire de Paris, je crois, en 2008 par le pape Benoît XVI. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Madame Isabelle de Golemin, journaliste, vous êtes une observatrice attentive et avertie des évolutions de l'Église. Après avoir été correspondante, envoyée spéciale, je ne sais pas comment on dit, pendant plusieurs années du journal La Croix à Rome, vous avez été quelques années chef de service religion du quotidien et vous êtes actuellement chef de service responsable du site internet lacroix.com. Vous êtes par ailleurs l'auteur, avec d'autres personnes, d'un ouvrage intitulé « Qu'arrive-t-il à l'Église aujourd'hui ?» C'est une bonne question aussi pour ce soir, paru aux éditions Lumen Vitae en 2011. Et plus récemment, vous avez également publié chez Bayard en 2008 l'ouvrage intitulé « Benoît XVI, le pape incompris ». Et l'on peut suivre aussi vos articles, vos commentaires sur votre blog intitulé « Une fois par semaine ». Merci beaucoup, Isabelle, d'être avec nous. Enfin, le père François Heuvet, jésuite, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de physique, docteur en théologie. Tu es entré dans la compagnie en 1983 et ordonné prêtre en 1989. Entre 92 et 95, tu vas enseigner la théologie à l'Institut Saint-Thomas de Moscou, avant de revenir ici à Paris au Centre Sèvres, que tu connais bien puisque tu as enseigné et tu continues à enseigner la théologie. Tu vas même être le doyen de la faculté de théologie entre 2005 et 2012. Et depuis quelques mois, tu as rejoint la rue d'Assas pour prendre les rênes comme rédacteur en chef de la revue Études qu'on ne présente plus ici. Merci, cher François, d'être ce soir avec nous. Alors, sans plus attendre, eh bien, je vais laisser la parole à nos invités. Les chantiers du nouveau pontificat, quelle Église pour notre monde. 20 minutes de parole chacun avant d'entamer le débat avec nous tous. Voilà, ça va être Isabelle de Golemin qui va ouvrir le feu, si je puis dire.
Bonsoir, merci François de m'avoir invité. Alors voilà, moi je vais vous parler, j'ai voulu parler d'abord parce que je vais parler de manière assez concrète de ce que moi j'ai pu vivre pendant les 15 jours de pré-conclave et de conclave, l'élection du pape François. Je parlerai d'abord comme journaliste, hein, je ne suis pas théologienne. Une journaliste qui s'est bien plantée, puisque tous les journalistes se sont bien plantés pour cette élection du pape, puisqu'on a tous prévu beaucoup de scénarios, mais ce scénario-là, personne ne l'avait prévu. Aucun des plus éminents vaticanistes italiens n'avait prévu une telle élection. Voilà, le cardinal Bergoglio faisait partie des outsiders, on va dire comme ça, des gens auxquels on pensait, mais vraiment, en se disant si le conclave dure très longtemps, s'ils n'arrivent pas à trouver, etc. Donc, que lui ait été choisi si rapidement, alors que tout le monde annonçait un pape italien et jeune, c'est vrai qu'on s'est tous trompés. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça invite à avoir un peu d'humilité sur notre travail. Et puis, peut-être, finalement, on a tous fait l'erreur de confondre cette élection avec une élection politique. Mais ça, peut-être qu'on en reparlera, effectivement, ce que n'est pas un conclave totalement. Alors, pour voir les futurs chantiers du pape, il m'a paru intéressant de voir les conditions dans lesquelles il a été élu, parce que je crois que ça dit beaucoup de ce qui va se passer, me semble-t-il. Et par rapport à ça, je voudrais m'arrêter sur trois choses. La première, c'est la renonciation de Benoît XVI. Je crois qu'on ne comprend rien si on n'a pas ça en tête pour maintenant un peu faire de la prédiction, voir ce qui va se passer. Je pense que l'élection du pape François et la manière dont il se situe aujourd'hui se situe dans le droit fil de cette renonciation. Alors cette renonciation, bon, c'était d'abord inédit, hein, même si on va toujours trouver des précédents historiques, mais en réalité ça ne s'était jamais produit. C'est une renonciation qui montre une belle humilité du pape, et là je crois qu'on est pareil, toujours dans cette tendance-là. C'est un peu comme si un PDG voyait que son entreprise n'allait pas, il fait un audit de tout, et puis finalement il arrive à se dire bah, « le problème c'est moi, et c'est moi qui dois partir ». Enfin, je trouve que c'est quand même un acte d'humilité et de lucidité assez incroyable. Et puis c'est aussi théologiquement évidemment très important, puisque ça désacralise la fonction. On distingue bien la charge du pape du sacrement épiscopal comme évêque et le soin avec lequel ce nouveau pape prend toujours la manière dont il se nomme toujours comme évêque de Rome et non comme pape, c'est pareil, on est toujours dans cette filiation. C'est pas comme quand on se marie, un pape, on n'est pas un temps et puis on peut ne plus être pape. Je crois aussi que cette renonciation a créé une forme d'incertitude. Et c'est vrai que moi, j'ai été pendant 4 ans correspondante à Rome. Et s'il y a bien une institution où tout se fait de manière presque automatique, parce qu'on l'a toujours fait, c'est l'institution romaine. C'est toujours, on a l'impression d'une espèce de mécanique qui répète inlassablement un peu les mêmes choses, qui est dans des rituels. On dit, ah bon, on va faire ça, maintenant on fait ça. Et là, ce qui était assez drôle avant le conclave, c'est le climat à la fois d'incertitude et de déstabilisation des gens de la curie qui ne savaient pas trop. Alors, est-ce qu'il va porter des chaussures rouges ou des chaussures noires? Comment est-ce qu'on va l'habiller? Comment est-ce qu'on va le nommer? Mais alors, le nouveau pape, mais alors, où est-ce qu'il va habiter? Enfin, on était dans quelque chose qui avait un peu déstabilisé, qui ont fait bouger les lignes et qui, à mon avis, permettent aujourd'hui aussi d'entrevoir de nouvelles lignes qui vont pouvoir bouger. Quoi. Voilà, on est là-dedans. Donc, je crois que le geste de Benoît XVI est extrêmement important pour comprendre le pape François. La deuxième chose, c'est pour comprendre aussi ce pape, effectivement, la presse en est beaucoup fait l'écho, c'est le climat extrêmement délétère qui régnait à la curie jusqu'à l'élection. D'ailleurs, c'est marrant de voir comment les choses ont changé rapidement. Alors, moi, j'étais très frappée, c'est pareil, en revenant de la lourdeur de ce climat. Vraiment, je n'avais pas connu ça. J'étais à Rome de 2005 à 2009, ce n'était pas du tout la même chose. Et en fait, bon, la curie a toujours été critiquée. On savait qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais là, ce qui est quand même impressionnant depuis l'affaire Vatilix, c'est que ça sort, quoi. Et vraiment, ça sort, je vous prie de croire, ça sort tous les jours dans la presse italienne. Là, maintenant, ça a arrêté. Mais même encore pendant le préconclave, sortaient des choses sur qu'est-ce que Bertone a fait, les telles magouilles qui vient comme archevêque de Gênes avec tel hôpital, qui a mis les trucs dans l'affaire de la Banque du Vatican. Enfin, voilà, il y avait toujours des affaires. Et c'est vrai qu'on a... C'est comme si un tabou était tombé et qu'on disait tout haut ce que pas mal de gens savaient quand même tout bas, à la fois les problèmes financiers et les affaires de corruption et la manière dont sont mêlés un peu trop souvent l'État italien, les affaires immobilières italiennes et les affaires de la curie, et puis aussi effectivement tous ces problèmes de comportement sexuel qui ne sont pas forcément en accord avec ce que dit par ailleurs l'Église. Donc ça, c'est vrai que ce climat était quand même très pesant. Et a beaucoup pesé, je pense, sur l'élection. C'était quelque chose qui se ressentait très fort. Et voilà, moi, ce qui m'a... Avant, quand on disait les choses de manière un peu confidentielle, et jamais un journaliste italien n'écrivait des choses contre la curie comme ça. Alors que là, c'est comme si, d'un seul coup, tout le monde se déchaînait de manière sans doute même excessive. Mais voilà, c'est, du coup, il y avait une forme de sentiment de voilà, tout est pourri, plus rien ne va. Et quand on rencontrait les gens de la curie, vous disiez, oh là là, je ne peux pas vous parler par téléphone, on est sur écoute. Ah, puis là, vous voyez, les gens, ils sont en train de m'espionner. Enfin, un peu une paranoïa de la curie par rapport à ça, et qui explique sans doute aussi la manière dont François, le pape François a été élu. On avait le sentiment d'un système quand même à bout. Et c'est beaucoup revenu pendant les fameuses congrégations générales, hein, le moment où tous les cardinaux se sont retrouvés pour dessiner un peu le portrait robot du futur pape, c'est-à-dire un peu un ras-le-bol des cardinaux de l'extérieur par rapport à ce système qui non seulement n'est plus efficace, mais en plus donne l'impression d'une grande corruption. La troisième chose, je crois qu'il faut bien avoir en tête, c'est le synode sur la nouvelle évangélisation. Je crois que ce synode, il a été très important. Parce qu'il y a eu une parole finalement assez libre qui s'est dite pendant ce synode et une prise de conscience de l'ensemble des évêques qui étaient là, de l'importance de revoir la manière de dire le message chrétien. Alors pour nous Français, ça paraissait un peu évident parce que finalement nous, la nouvelle évangélisation, on est quand même dedans depuis quelques temps puisqu'on est une société qui est extrêmement sécularisée. Ça fait quand même longtemps que l'Église, on sait qu'il faut qu'on aille en dehors des églises, justement qu'on aille sur le parvis, qu'on s'adapte. Qu'on soit beaucoup plus missionnaire. Mais c'est beaucoup moins vrai du reste des pays européens, moins vrai aussi des États-Unis. Et c'est vrai que pendant ce synode, il y a vraiment eu beaucoup de textes d'évêques qui ont dit il faut complètement qu'on revoie à frais nouveau la manière dont on présente aujourd'hui l'Évangile dans un monde non seulement sécularisé, mais qui n'a plus aucune culture chrétienne. Donc comment est-ce qu'on parle? Il faut sans doute parler plus simplement, il faut arriver à redire ce message. Et ça, je crois que c'est quand même en arrière-fond de l'élection du pape François, parce qu'on voit bien dans les premières homilies qu'il a prononcées, on est vraiment là-dedans, dans cette manière d'évangéliser de manière un peu nouvelle, sans doute de s'adresser autrement au monde. Donc ça, c'est trois facteurs, c'est vraiment à avoir un peu en arrière-plan pour comprendre où va aller le pontificat. Alors maintenant, sur l'élection même du pape François, alors on peut ensuite l'expliquer par des facteurs plus politiques, hein, ce que tout le monde a dit, on ne voulait pas de pape italien, même si les Italiens étaient très nombreux dans le collège des cardinaux électeurs, parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait une beaucoup trop forte corruption de la curie, qu'un Italien ne pourrait pas y arriver. On voulait aussi rééquilibrer l'Église. Effectivement, aujourd'hui, 40% des catholiques sont en Amérique latine. Donc il y avait ce sentiment qu'il fallait faire droit à ces nouveaux équilibres géographiques et géopolitiques de l'Église catholique. Et puis, ce qui est aussi, à mon avis, important, c'est d'avoir voulu un pape qui n'ait pas une carrière curiale. Ce qui explique d'ailleurs aussi qu'on ait écarté un autre candidat qui était le cardinal Scherer, qui était brésilien, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de carrières de cardinaux ces derniers temps qui se sont faites par des gens qui d'abord ont été employés dans des dicastères à la curie romaine, et puis ensuite, en quelque sorte, pour les remercier ou comme pour continuer leur carrière, on les a nommés comme archevêques. C'est le cas aussi de Ouellette, par exemple. Mais du coup, c'est des gens qui ont été très formés à la curie, et je pense que là il y a eu vraiment le sentiment, l'envie de quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'a pas du tout de lien avec l'écurie, et donc il y a une carrière qui est totalement une carrière, on va dire, de terrain, en quelque sorte. Voilà, mais ça, c'est, à mon avis, les trois choses que j'ai citées avant sont vraiment importantes pour comprendre où est-ce qu'on va. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau pape? Alors, c'est une question à 1000 euros et en fait, on ne sait pas trop. Il y a quand même quelque chose pour lequel il a été élu. On sait aujourd'hui, par exemple, que Benoît XVI, au moment des congrégations générales, on a beaucoup discuté du problème des intégristes. Et c'était sûrement dans sa feuille de route comme pape. Bon, là, il y a dans la feuille de route de ce nouveau pape, il y a réformer la curie. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ça? C'est à la fois facile et difficile. Difficile parce qu'il y a des habitudes, c'est très enquisté, c'est assez italien avec un peu des fromages que se partagent un certain nombre de régions italiennes, de clans italiens, etc. Donc c'est vrai que ça va être dur pour le pape de lutter contre ça, mais en même temps la curie c'est tout petit, hein, c'est peut-être 3-4 000 personnes. Donc finalement on se dit que ça peut aussi basculer assez rapidement et que c'est pas si compliqué que ça, c'est pas le mammouth de l'éducation nationale par exemple pour prendre une comparaison. Donc qu'est-ce qui peut faire là-dedans, qu'est-ce qu'on en attend? Sans doute plus de concertation. Hein. Vous savez que le pape et le secrétaire d'État réunissent très rarement les responsables de dicastères, parfois même une fois par an. Enfin, donc là, peut-être qu'il va y avoir beaucoup plus de concertation au niveau de la curie. Peut-être introduire plus de diversité dans les gens qu'on nomme. C'est-à-dire, Paul VI déjà avait dit ça, il ne fallait pas que les gens restent plus de 6 ans à la curie. Alors là, il y a des gens qui restent 20 ans, 30 ans, donc ils perdent complètement la notion de la vraie vie. Parce que c'est vrai, quand on vit au Vatican, quand on travaille au Vatican et qu'on va ensuite dormir dans une maison de prêtre juste à côté, donc on rencontre les mêmes gens qu'on rencontre dans les bureaux du Vatican, la vraie vie, elle n'est pas là, quoi. Donc les gens perdent un peu la notion de qu'est-ce qui fait l'humanité. Donc il y aura peut-être ça. Sans doute aussi plus de dialogue. C'est vrai qu'on a beaucoup reproché au moment des congrégations générales au pape Benoît XVI de s'être un peu coupé progressivement de tous ses collaborateurs. Et donc là, il y a vraiment un besoin de dialogue. Et le fait que le pape ait choisi de ne pas s'installer dans les appartements pontificaux, mais dans la maison Sainte-Marthe, donc qui est beaucoup plus accessible, c'est sans doute aussi parce qu'il veut pouvoir voir plus de gens. Écouter les gens, dialoguer avec eux, voilà. Il y a un vrai besoin de mettre plus de dialogue, plus de fluidité. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va faire de la Banque du Vatican? Alors il a commencé à dire qu'il allait la supprimer, bon, ce qui est assez radical. Bon, après tout, pourquoi pas? Donc c'est vrai qu'on l'attend beaucoup sur ce dossier de la finance. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une banque transparente? Est-ce qu'on peut être dans les normes financières internationales quand on est le Vatican? Après tout, oui. Bon, le pape François, par rapport à ça, le risque, c'est quand même, il est assez âgé, mais en même temps, c'est vraiment un gestionnaire. C'est quand même quelqu'un qui a géré un gros diocèse et qui a eu des responsabilités importantes à la fois au niveau de la conférence épiscopale argentine et puis aussi de l'Amérique latine. Donc, voilà, il peut sans doute bien choisir ses collaborateurs, peut-être mettre plus de laïcs, on peut rêver, peut-être plus de femmes, mais bon, ça, j'attends de voir. Parce que là, c'est pas difficile d'en mettre un peu plus. Mais voilà. Alors ça, c'est la première chose. La seconde orientation sur laquelle on peut avoir peut-être des changements, c'est ce que j'appellerais une nouvelle manière d'être pape. C'est vrai que c'est les premiers signes qu'il donne de ce point de vue-là sont vraiment intéressants. Je crois qu'on est quand même dans la continuité par rapport à Benoît XVI, qui l'avait un peu théorisé, on va dire, mais peut-être pas forcément mis en pratique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement la manière dont il dit toujours qu'il est évêque de Rome. L'importance du peuple qui lui est confié, l'importance du peuple romain, c'est important parce que ça veut dire qu'il accorde de l'importance à ce qui fait l'évêque local, le diocèse. C'est quand même ça la première charge. Donc il y a quand même une revalorisation à travers ça du rôle de l'évêque. De tous les évêques. Et ça, je trouve ça intéressant. Il a eu une première phrase quand il a été élu, il a dit qu'il devait présider à la communion dans la charité, ce qui est une expression orthodoxe. Mais voilà, on a le sentiment qu'il va essayer de faire vivre plus la collégialité telle qu'elle est définie par Vatican II, mais qui a un peu de mal à s'imposer. Alors, concrètement, peut-être... réunir plus souvent le synode des évêques ou bien discuter avec les conférences épiscopales, donner plus de pouvoir aux conférences épiscopales. Bon, c'était quand même une volonté à la fois de Jean-Paul II et de Ratzinger et ensuite Benoît XVI d'amoindrir plutôt leur pouvoir. Donc là, est-ce qu'on va avoir au contraire plus de pouvoir ou plus de dialogue avec ces conférences épiscopales? Est-ce que le pape, quand il va voyager, il va avoir des vraies séances de travail avec les évêques? Est-ce qu'il va... Voilà. Est-ce qu'on sera plus dans une attitude de dialogue et moins une attitude comme ça de haut en bas? Est-ce que aussi il va pouvoir laisser plus d'autonomie aux églises locales sur un certain nombre de points pour leur donner plus de souplesse? C'est vrai que, bon, par exemple, sur le divorcé remarié, il en a été question pendant les congrégations générales, donc à mon avis... il va y avoir des choses là-dessus, me semble-t-il, en tout cas, peut-être que ce pape-là va donner la possibilité aux évêques locaux ou selon les pays, selon les zones, de trouver des solutions. Enfin, j'en sais rien, encore une fois, je ne suis pas lui, mais c'est vrai que, en tout cas, les premiers signes qu'il donne semblent vraiment aller dans ce sens. Et là, ça va être vraiment très intéressant à observer quand même les prochains mois. Parce que c'est quand même tout le problème de comment faire vivre la communion qui fait quand même l'Église catholique, comment la faire vivre aujourd'hui au XXIe siècle, comment avoir plus de concertation, plus de d'horizontale, tout en gardant la visibilité de la papauté, parce que c'est quand même un sacré atout pour l'Église catholique, cette visibilité. Enfin, moi, j'ai été ébahie par le spectacle que peut donner un conclave au monde, c'est quand même quelque chose de très très impressionnant. C'est une vraie, scène de théâtre qui se joue devant vous et qu'il y avait quand même 6000 journalistes qui étaient là pour la filmer en direct. Donc c'est vrai que le pape, c'est quand même un instrument de visibilité intéressant. Et en même temps, comment conjuguer ça avec plus de concertation, plus de coordination? Donc ça, en tout cas, c'est pas évident parce qu'on voit bien que les autres églises et autres religions ont beaucoup de problèmes avec ça. Je pense notamment aux anglicans. C'est quand même, on voit bien que c'est compliqué parce qu'ils ont beaucoup de mal à faire vivre la communion anglicane quand même. Hein. Enfin, ils la font vivre à leur manière. On peut aussi penser aux orthodoxes. Voilà, donc c'est vrai qu'on va voir comment ça va se jouer. Qu'est-ce que ça veut dire une communion quand il y a 1,2 milliard de fidèles? Comment est-ce qu'on peut décentraliser un petit peu plus? Ensuite, la troisième chose, je crois, où effectivement on peut attendre ce pape, en tout cas dans la manière qu'il a, lui, d'être, c'est ce qu'on peut appeler la nouvelle évangélisation, mais en fait c'est l'évangélisation tout court, parce que c'est pas tellement nouveau ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est vraiment la manière dont il parle aux gens. on voit qu'il y a un gros effort pour s'adapter à des gens qui n'ont pas forcément une culture catholique. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Benoît XVI. Dès le début, j'ai essayé de convaincre les gens en France que vraiment c'était un grand pape, parce que j'aimais beaucoup ses textes. Mais il faut reconnaître que c'est des textes qui s'adressent vraiment aux cathos, quoi. Hein. Il faut les lire, il faut les travailler, etc. C'est vrai qu'on voit bien que ce pape est beaucoup plus accessible à des gens qui n'ont pas une grande culture catholique. Donc c'est à mon avis, intéressant. Et puis, ce qui est aussi intéressant à observer, c'est qu'on est quand même, on a changé de culture. Peut-être qu'on n'a pas encore pris la mesure, mais c'est un peu comme quand les Grecs, au moment de l'Antiquité, ont vu la bascule par rapport à l'Empire romain. Je veux dire, là, voilà, l'Europe, pour l'Église catholique, c'est plus ça. Maintenant, l'Église s'est décentrée vers le sud. Et là, on a quand même un pape qui arrive avec une autre culture. La manière dont c'était drôle, là, à la veillée pascale, dont il a tutoyé les gens dans le public. Alors, en italien, le « tu » n'a pas la même valeur qu'en français, mais enfin, quand même, moi, je n'ai jamais vu Benoît XVI tutoyer les gens, donc c'est vrai que c'était drôle. La manière dont il dit des choses très simples et qu'il répète plusieurs fois, moi, j'ai été au Brésil, c'est vrai que c'est typique des homélies qu'on peut entendre en Amérique latine, voilà, qui un peu comme des évangéliques, souvent, d'ailleurs. C'est vraiment, voilà, on répète plusieurs fois les choses, et il répète, et il avance comme ça en répétant. Donc ça c'est intéressant, et aussi la manière dont il prend soin de parler des gens qui ne croient pas. Une fois par exemple, quand il a donné sa bénédiction aux journalistes, il a dit je vais le faire silencieusement parce qu'il y en a parmi vous qui ne croient pas. Ça rappelle Jean 23, hein, les hommes de bonne volonté, et ça va même plus loin parce que c'est vraiment par exemple dans ce qu'il a dit là, à la veillée pascale. Il a vraiment parlé à des gens qui ne croient pas, mais qui ont quand même un besoin spirituel. C'est pas Benoît XVI s'adresser aux non-croyants, on va dire, de culture chrétienne. C'est-à-dire à l'athée qui se serait construit contre l'Église catholique, puisque c'est celui-là qui faisait partie de sa culture à lui. Chaque fois qu'il parlait du monde athée, c'était... En fait, il parlait d'un athéisme qui est peut-être sans doute un athéisme plus du XXe siècle, en tout cas un athéisme de gens qui connaissent bien, qui ont une bonne culture chrétienne. Et là, on a le sentiment qu'il s'adresse vraiment plus à des gens qui peuvent être loin de l'Église, mais qui peuvent avoir un besoin spirituel, en leur disant « n'ayez pas peur, regardez ce bras qui vous est tendu, regardez cette main qui est là, etc. » Et voilà, donc je pense que de ce point de vue-là, ça va dans le sens de ce qui avait été quand même beaucoup dit au moment du synode sur la nouvelle évangélisation, et ça peut en tout cas avancer dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y a un mot qu'il répète très souvent, c'est le mot de périphérie. C'est ce qu'il a dit quand il était aux congrégations générales. On a rendu public le discours qu'il a prononcé. Et en disant, il faut arrêter d'être auto-centré, de vous occuper que de vous. Il faut sortir, il faut aller à la périphérie. Et ça, je crois que ça va être vraiment important dans le futur pontificat. Voilà, alors juste en conclusion, je dirais juste parce que ça m'amuse, parce qu'il y a une espèce de papolatrie qui va d'ailleurs un peu contre sa volonté à lui d'être plutôt simple, d'être dans la simplicité. Mais alors les médias, ils adorent ça, donc il y a une espèce de phénomène François là qui est en train de se créer au niveau des médias. Et en tout cas, pour les catholiques, je crois qu'il faut faire attention à ne pas tout attendre de lui, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance, peut-être d'ailleurs beaucoup en France, à toujours se situer par rapport au pape, soit pour les critiquer, soit pour les encenser. Mais voilà, bon, je pense qu'il ne faut pas non plus tout attendre de François, même si, effectivement, ce pape est plutôt formidable. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Isabelle, de ce regard sur les évolutions, nous rappelant combien cette élection se situait bien dans le droit fil de la renonciation de Benoît XVI et ce climat quand même pas très bon à la Curie. L'importance aussi du synode sur la nouvelle évangélisation, peut-être qu'on ne l'avait pas complètement en tête. Alors les chantiers, eh bien, réformer la Curie, une nouvelle manière d'être pape, ça c'était, je crois, important d'entendre ça, avec la revalorisation du rôle des évêques, plus d'autonomie aux églises locales, la question de comment faire vivre la communion, la concertation et en même temps la visibilité du pontificat, de la figure du pape, et puis sa manière de s'adresser à des gens qui peuvent être loin de l'Église, ça c'est effectivement quelque chose qui le caractérise depuis son entrée en fonction. On a bien entendu aussi cette faire attention à ne pas tomber dans la papolatrie. On va essayer de tenir ce challenge toute la soirée. Voilà, alors on va donner la parole à un autre François et on va essayer de lui faire confiance, et un autre jésuite.
Vous avez compris le critère d'invitation pour ce soir, puisqu'il faut être jésuite et s'appeler François. Nous sommes deux à cette table.
C'est un autre critère.
Merci de cette invitation. Je commencerai volontiers, comme Isabelle de Gaulmin l'a fait, par les événements que nous avons vécus ce printemps. On a parlé il y a 2 ans du printemps arabe, cette année c'est le printemps de l'Église. Et je crois qu'il y a effectivement des événements, je soulignerai le mot événement, c'est-à-dire, je cite une expression du pape François de ses homélies, je ne sais plus exactement laquelle, Dieu nous surprend toujours. Cette dimension de surprise. Alors, évidemment, toute surprise n'est pas un événement spirituel, mais je pense que tout événement spirituel est une surprise. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe, et la renonciation de Benoît XVI en est un, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle en est un, je dirais d'autant plus que elle vient par contraste avec, comme disait Isabelle à l'instant, le dicton romain, on l'a toujours fait. Et de fait, c'est quelque chose d'inédit. Et quelque chose d'inédit qui vient de la part d'un pape très attaché à la tradition. On aurait pu penser justement que quelqu'un attaché à la tradition pouvait identifier la tradition à la continuité, à la répétition des mêmes choses. Et cette décision inédite inaugure quelque chose de neuf. Et ça me semble intéressant de souligner cet élément au moment où nous fêtons le 50e anniversaire du Concile Vatican II, qui lui aussi a été un événement. Alors, là aussi, le Concile Vatican II, bien sûr, s'inscrit dans la continuité de la tradition de l'Église, ne dit pas des choses radicalement neuves dans son contenu, mais tout le monde l'a remarqué à l'époque, ce fut un événement, la manière de le dire a été nouvelle. Se rappeler ces événements me semble fondateur pour l'Église que nous désirons, finalement. Parce que cette capacité de l'esprit de nous faire sortir de la routine. Et, il y a des homélies du pape François dénonçant précisément le danger routinier dans la pratique chrétienne. Donc, ces événements du printemps et l'élection, bien sûr, inattendue, en est un autre, sont le signe d'une décision sans modèle. La décision spirituelle est une décision qui, justement, ne reproduit pas un modèle, mais elle est capable de se positionner elle-même. Je noterai aussi, en ce début de pontificat, on l'a dit tout à l'heure, et je reprends ce point, ça me semble aussi très important, le grand intérêt, largement en dehors de l'Église, pour ce qui se passe, qui est la curiosité, pour une part, mais qui est, je pense, une attente. Je pense qu'il y a une attente très forte. Peut-être qu'on ne soupçonne pas à quel point notre monde attend quelque chose de l'Église. Et même si beaucoup de nos contemporains, dans les médias ou ailleurs, affectent cette indifférence à l'égard de l'Église, je crois que cette indifférence de surface cache une attente plus profonde. Et peut-être que la mise en exergue de certains scandales est en fait le versant négatif de cette attente. L'attente, je reprends l'expression d'un journaliste, l'attente de la mise en conformité des paroles et des actes. Enfin, cette formule me paraît tout à fait importante, la mise en conformité des paroles et des actes. Et c'est ça qui est attendu des chrétiens et des hommes d'église. Enfin, les chrétiens, enfin, l'église, c'est nous tous. Donc, je dirais, des hommes d'église et des hommes et des femmes d'église. Voilà, bon, c'est-à-dire nous tous. Je crois que cette attente de mise en conformité des paroles et des actes qui est profondément évangélique. Je dirais, c'est le style évangélique. Et ça, je crois que les premiers gestes et les premières paroles de ce pape témoignent, reflètent, me semble-t-il, un style évangélique. Dans une de ses homélies, lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, il disait, je le cite, « L'agir chrétien est un style qui cherche et désire pouvoir participer du style de Jésus. » Voilà, un style qui cherche et désire pouvoir participer du style de Jésus. Alors on me dirait, c'est une évidence, enfin, est-ce qu'il peut y avoir une vie chrétienne, un agir chrétien différent du style de Jésus? Ben non, bien sûr, mais quand on réalise les conséquences que ça peut avoir, qu'est-ce que ça peut signifier finalement, cette sorte de retour radical à l'Évangile, qui finalement était le programme de saint François. Et le choix du prénom, comme vous savez, n'est pas neutre, il s'est expliqué là-dessus, c'est le choix des pauvres, surtout, mais c'est aussi ce retour radical à l'Évangile, qui était aussi dans le programme du Concile. Oui. Donc, à la fois c'est extrêmement simple, je crois que c'est d'une simplicité biblique, si je puis dire, mais quand on réalise ce que ça peut signifier, ben, non pas que les constructions théologiques soient inutiles, je ne suis pas là du tout pour scier la branche sur laquelle je suis assis, mais je crois qu'il y a cette redécouverte que le Concile a permise, a encouragée, du style évangélique, me paraît tout à fait essentiel. Et je crois que c'est ça qui est le fondement vraiment d'un renouveau de l'Église et d'une évangélisation. Enfin, je dirais, j'ai le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes, mais je crois que prendre conscience de ça me semble important. Un geste du reste tout à fait emblématique qui m'a beaucoup touché, c'est le lavement des pieds, le jeudi saint, qui prenait une force très significative du fait de son dépouillement, du fait de la simplicité de la célébration. On n'avait pas le sentiment que c'était une sorte de rituel qu'on garde d'année en année, mais qui est tellement symbolisé que finalement il perd sa force même, la force que le texte évangélique nous dit, enfin, la répulsion de Pierre devant le lavement des pieds, indique bien que c'est un geste fort. Si on ne ressent pas cette répulsion, je crois qu'on passe à côté du sens de ce geste. Et je me suis rappelé une des admonitions de François d'Assise à ses frères. Il disait, quand on a reçu autorité sur les autres, on ne doit pas plus en tirer gloire que si l'on était affecté à l'emploi de leur laver les pieds. Donc le geste du lavement des pieds est très important pour François d'Assise, et encore une fois, tout ça n'est pas par hasard. Donc il y a cette dimension évangélique, ce style évangélique à redécouvrir, qui est à la base de l'évangélisation, autour du thème du service, et qui va dans la direction de la de l'encouragement. Je pense que ce que l'on peut attendre, enfin, c'est la fonction épiscopale, et je pense que mon successeur ne me contredira pas là-dessus, c'est l'injonction de Jésus à Pierre, affermis tes frères. Voilà, l'encouragement. Veiller plus que surveiller, comme disait le pape François dans une de ses homélies. Veiller plus que surveiller, hein, faciliter plus que réguler. Voilà. Je dirais que c'est un encouragement adressé non seulement aux frères dans l'épiscopat, mais à l'ensemble des chrétiens à prendre ses responsabilités. Je crois que Isabelle de Golemin disait à la fin. N'attendons pas tout du pape, c'est pas lui qui doit tout faire. Vous savez, comme caricature de Jacques Faizan il y a longtemps, représentant général de Gaulle à la veille des Jeux Olympiques, partant en survêtement pour je ne sais plus où, disant dans ce pays, si je ne fais pas tout moi-même, bon, je crois que justement, c'est pas au pape à faire tout. Et dans un des livres Dominique qui vient de sortir, il y a un commentaire de la rencontre de Jésus avec Zachée, et il montre bien que le regard de Jésus sur Zachée le fait passer de la posture de spectateur à la posture d'acteur. Lui qui vient regarder Jésus, comme spectacle, comme certains vont sur la place Saint-Pierre pour regarder le pape, eh bien, le regard de Jésus les fait passer de l'attitude du spectateur à celle d'acteur. Et je crois que, peut-être que, je dirais, ce que peut attendre justement d'un pape, c'est que son regard nous fasse passer de l'attitude de spectateur qui attend tout d'en haut à celle d'acteur, conscient de ses responsabilités au sein de l'Église. D'autant que ce qui est là aussi marquant dans l'attitude de Jésus dans l'Évangile et dans celle des apôtres, je pense à Pierre face à Corneille, c'est de prendre conscience que l'Esprit est déjà à l'œuvre, l'Esprit est déjà à l'œuvre dans le monde. Je crois que c'est aussi un des points d'attention du Concile Vatican II, la question des signes des temps. Les signes des temps, c'est la capacité à percevoir l'action de l'Esprit déjà présent dans le monde, déjà active dans le monde. Et je me souviens, ce qui a été fait mention tout à l'heure, que j'ai passé quelques années en Russie, moment où, après la fin du RSS, dans un pays qu'on aurait pu penser comme dépourvu, débarrassé de toute dimension religieuse, or, se rendre compte qu'il y avait... il y avait des initiatives, l'Esprit travaillait, était à l'œuvre dans ce pays, et peut-être d'une manière, et parfois d'une manière inattendue, déroutante par rapport au schéma traditionnel. Là aussi, je crois que c'est important de percevoir la présence active de l'Esprit, des formes d'Église, finalement, qui se font, même si ça ne reflète pas les formes auxquelles nous sommes habitués. Et ça, je crois que c'est vraiment la fonction des responsables d'Église, de pouvoir identifier cela, de pouvoir discerner, bien sûr, tout n'est pas à baptiser, tout n'est pas à authentifier, pouvoir discerner ce qui effectivement construit l'Église, mais cette attention au signe des temps me semble à prendre en... tout à fait en considération. Et ce qui suppose, effectivement, tout à l'heure on mentionnait un mot qu'il aime bien, aller aux périphéries, sortir vers les périphéries du monde, voilà, ou sortir dans la rue, c'est-à-dire pas simplement une église hospitalière. Dans un de ses homélies à Buenos Aires, il dit, mais il suffit pas seulement d'ouvrir les portes de l'église. Bien sûr, c'est très bien d'être hospitalier, de pouvoir accueillir largement, faire en sorte que, faire table ouverte. C'est un beau symbole eucharistique, faire table ouverte, comme disait la déclaration de la réunion d'Apparecida, faire en sorte qu'il y ait place pour tout le monde, voilà, que dans nos églises, il y ait place pour tout le monde. Ouvrir la porte, ouvrir largement les portes. Elle disait, c'est pas suffisant d'ouvrir les portes, il faut sortir dans la rue. Aller à la rencontre des gens, entrer en dialogue avec eux. Et c'est un risque aussi, c'est le risque de ne pas être compris, c'est le risque de peut-être de prendre des initiatives qui ne sont pas les bonnes, mais je crois que cet élément de risque me semble du reste inévitable dans toute évangélisation. Je dirais, quand on connaît un petit peu l'histoire des missions chrétiennes, et en tant que jésuite, on est quand même bien placé pour avoir pas mal d'entreprises missionnaires de toutes les sortes, avec toutes sortes de succès ou d'insuccès, quelles que soient du reste les sources de l'insuccès, que justement il n'y a pas de mission sans initiative, sans inventivité et sans, par conséquent, prise de risque. Il y a des choses qui ne sont pas adaptées, mais ça me semble là aussi tout à fait important. Et cette dimension de rencontre aussi est à souligner, c'est-à-dire ce qui est sensible dans sa manière de faire, cette capacité d'aller à la rencontre des autres, et cette capacité non seulement de parler, mais de savoir écouter aussi, c'est-à-dire La rencontre, c'est d'abord la rencontre interhumaine. Là aussi, ce sont des choses tout à fait banales. On revient à l'Évangile, c'est ça qui se joue fondamentalement. C'est pas, l'Évangile nous montre Jésus rencontrant des personnes, parlant, mais on ne sait pas très bien ce qu'il dit. Je ne dis pas que ce qu'il dit n'est pas important, mais on sent bien que ce qui se joue, c'est essentiellement, c'est d'abord une rencontre interhumaine. C'est d'abord une confiance retrouvée. D'abord l'instauration d'une confiance. Et c'est sur le fond de cette confiance qu'une foi pourra se bâtir. Et ensuite, des paroles pourront se mettre. Mais cette... Et voit bien que sa manière de faire fait rentrer dans cette rencontre et dans l'instauration d'un dialogue en vérité, d'un dialogue en confiance. Et instaurer la confiance, enfin, on sait bien dans l'expérience, n'est pas toujours facile, mais tout à fait essentiel. Et que la confiance, c'est la confiance qui engendre la confiance. Donc, là aussi, mon expérience en Russie m'a montré que la confiance n'engendre pas toujours la confiance, malheureusement, mais il n'y a pas d'autre manière de faire. En tout cas, que la méfiance engendre à tous les coups la méfiance. Ça c'est tout à fait clair. Hein, si d'emblée on a une attitude devant d'autres de défiance, eh bien, inéluctablement, ça entraînera une attitude de défiance. En revanche, la confiance, qui n'est pas sans risque, là aussi on le sait bien, mais a des chances de faire naître la confiance. Donc je crois qu'il y a là quelques signes qui sont tout à fait encourageants. Hein, en tout cas, je les prends comme des signes d'encouragement dans le sens d'une église missionnaire. Je crois que le synode sur l'évangélisation nous a rappelé, si on était besoin, cette dimension fondamentalement missionnaire de l'Église. On peut se rappeler aussi un grand texte de Paul VI, Evangelium Nocendi, cité par Benoît XVI, cité aussi très volontiers par le pape François, où, quand il était archevêque de Buenos Aires, il faisait volontiers référence à ce texte de 1974, je ne me trompe pas, qui est un texte qui est certainement à lire et à relire aujourd'hui. Je pense aussi à un autre texte plus ancien de Paul VI, Ecclesiam Suam, sa première encyclique, où il mettait au cœur de son propos le thème du dialogue. Alors on a pu peut-être abuser un petit peu ce thème du dialogue, l'église en dialogue, etc., qui n'ose plus proclamer la parole, mais je crois que la proclamation de la parole ne peut se faire que sur cet arrière-plan d'écoute, non pas d'écoute du monde, mais d'écoute de l'esprit travaillant le monde. Hein, ce n'est pas l'écoute du monde au sens facile du terme ou à la mode, mais c'est l'écoute de l'esprit présent dans le monde et nous laisser évangéliser par cela et bien sûr tout particulièrement par les pauvres. Par les pauvres, c'est-à-dire par ceux que nous sommes tentés d'oublier. Ceux-là qui peuvent nous évangéliser comme ils nous le montrent. Donc, je pense que ces premiers gestes et cette première parole, et ces premiers gestes, encore une fois, parce qu'ils nous montrent bien l'importance de l'agir. C'est l'agir chrétien. Alors, bien sûr, il faut que cet agir soit pensé. Alors pour l'instant, on est un petit peu pris au dépourvu parce que les textes que nous avons de lui sont des textes d'homélie, sont des textes très simples, sont des textes qu'il faudrait, je dirais, pour un théologien, ils sont presque un peu décevants. Parce que, surtout quand on était habitué aux textes de Benoît XVI, mais parce qu'il faudrait les entendre en situation pour qu'ils prennent toute leur force. Je crois que on attend aussi des textes plus substantiels, et il y en aura certainement, il en faut, je crois qu'il faut des textes plus substantiels, mais déjà, il me semble que ces premiers gestes sont un très bon point de départ. Donc, ce n'est pas évidemment à nous à fixer le programme, parce que précisément, encore une fois, je reviens à mon point de départ, si l'esprit est surprenant, eh bien, aucune stratégie n'est à envisager. Et je crois que c'est à continuer résolument dans cette ligne que nous nous laisserons encore surprendre. Et je crois que c'est ça qui est une bonne chose. Voilà.
Merci François. Merci de nous avoir montré en quoi nous avons vécu vraiment un événement, je crois qu'on en a bien conscience, un événement inattendu, 50 ans après le Concile Vatican II, cette capacité de l'esprit de nous faire sortir de la routine, loin de la reproduction d'un modèle. Et puis tu as insisté sur l'attente très forte du monde vis-à-vis de l'Église, celle finalement de la conformité des paroles et des actes, le style évangélique, l'agir chrétien, qui se décline de plusieurs manières. Tu as évoqué l'encouragement, veiller plus que surveiller, ça je crois qu'on va garder ça en tête, cet encouragement qui aide à passer de la place du spectateur à celle d'acteur. Identifier les signes de l'esprit, ce qui construit l'Église, et puis aller à la rencontre des gens malgré tous les risques que cela entraîne. Voilà, merci, on va continuer à tourner autour de cette question des chantiers avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort.
Merci. Merci donc pour cette invitation qui m'oblige, moi, comme nous tous d'ailleurs, à réfléchir, parce que quand on est devant une surprise, on se laisse d'abord surprendre, on peut rester un peu stupéfait et on n'a pas forcément tous les éléments qu'il faut pour pouvoir réfléchir et tirer des conclusions. Alors je voudrais quand même vous proposer, trois réflexions et puis peut-être essayer de retenir quelques thèmes dans ce que déjà le pape François a pu faire ou dire. La première réflexion est un retour sur les événements que nous avons vécus depuis la résignation de Benoît XVI. Et je dirais, j'appellerais ça, la mise en valeur de la dimension personnelle du ministère pétrinien. Parce qu'on a beaucoup dit, que Madame de Golemin encore, que cette décision contribuait à une désacralisation de la fonction papale, du ministère pétrinien. Ce n'est pas faux, bien sûr. Mais il me semble que la question est moins de savoir s'il y a une aura sacrale autour de la fonction du pape. Il me semble que ça met surtout en valeur sa dimension fortement personnelle. Le 11 février dernier, donc le jour où Benoît XVI a annoncé sa résignation, il se trouve que l'après-midi, je suis allé rue de Grenelle voir un père jésuite. Peut-être pour ça que j'ai été invité ce soir, d'ailleurs. Je ne sais pas. Et alors, j'ai croisé dans la cour un autre père jésuite qui m'a dit « La question n'est pas de savoir si c'est une bonne décision, cette résignation, mais c'est une belle décision. » Et j'avoue que j'ai bien apprécié cette distinction, cette nuance, parce qu'il me semble qu'elle fait ressortir que Benoît XVI a pris une décision qu'on n'a pas à juger, parce que c'est une décision qu'il a prise devant Dieu, comme une personne justement, comme un être personnel qui se place devant Dieu. Et il me semble que Benoît XVI a expliqué cela, et je vous confesse volontiers que ça m'a un peu rassuré, par rapport à ce qu'on a pu entendre sur la fonction de pape, qui pourrait être une fonction pour un temps, qu'on abandonnerait ensuite. Bon. Benoît XVI a expliqué dans sa dernière audience que lorsqu'il avait été élu pape, il avait bien compris que c'était Dieu ou le Christ, comme vous voudrez, le Seigneur qui le prenait, et qui le prenait tout entier, ce qui voulait dire un renoncement à la vie privée, et qui le prenait pour toujours. Et que par conséquent, en résignant ou en se retirant, il ne partait pas à la retraite, si vous voulez. Pour commencer, il le dit lui-même, une vie de conférences, de rencontres d'amis, de voyages à travers le monde, de siestes au bord de la mer ou des lacs bavarois, mais qu'il allait se retirer, donc plutôt une vie, non pas, vous voyez, pas une vie, il n'allait pas partir à la retraite, mais il partait en retraite. Et il me semble que dans cette dernière audience, Benoît XVI a indiqué que il voulait poursuivre ce pourquoi Dieu l'avait pris. Il restait dans ce pourquoi Dieu l'avait pris, ne cherchait pas à acquérir un autre état, disant « je suis fatigué, je vais passer à autre chose ». Mais qu'il jugeait qu'il devait le faire selon d'autres modalités. Et que donc il allait le faire maintenant dans la prière et le silence. C'est pour ça que quand on lit dans les journaux, dans certains journaux, pas dans les bons journaux, ni sous la plume des bons journalistes, mais dans d'autres publications, on lit parfois que Benoît XVI aurait inspiré des gens dans le conclave, ou qu'il resterait tout près dans le Vatican, là, et qu'il le piloterait, ne laisserait pas tranquille son successeur. Je crois vraiment que c'est ne rien comprendre à qui est Benoît XVI, d'une part, et puis peut-être à ce qu'est la vie de foi et la vie chrétienne tout court. Donc il me semble qu'on a vu un homme qui a été saisi par Dieu et placé à une certaine place par Dieu, et qui ne cherche pas à fuir cette place, mais qui aussi, avec son intelligence, devant Dieu, eh bien, juge qu'il doit passer à une autre façon de correspondre à ce que Dieu attend de lui. Et voilà, il ne m'appartient pas complètement de le dire, mais peut-être que c'est assez jésuite, si vous voulez, au sens où c'est une vraie décision discernée, une vraie détermination, comme on peut en prendre dans une retraite, et essayer de voir confirmer par la paix que l'on en reçoit. Je me risque dans des terrains que je connais peu et devant un public de connaisseurs. Voilà, bon. Mais en tout cas, donc, il me semble que ça met en valeur, si vous voulez, que le ministère pétrinien, c'est une charge personnelle. Ça saisit la personne entière. Précisément, ce n'est pas une fonction que l'on reçoit pour 5 ans et puis que l'on abandonne ensuite pour partir dans un EHPAD, vivre autrement. Peut-être qu'un jour, les papes partiront dans des EHPAD parce qu'il faudra bien s'en occuper. Mais malgré tout, on est saisi, on ne sort pas de cet état-là. Alors, ça met en valeur, je trouve, cette décision de Benoît XVI, cette résignation de Benoît XVI, mais je trouve très fortement en valeur ce que nous pouvons observer chez le pape François, dans lequel il me semble que nous voyons vraiment la personne, pas simplement sa personnalité, vous voyez, mais sa personne avec sa liberté spirituelle, qui essaie d'habiter la charge qu'il reçoit. Donc, il ne se croit pas obligé de faire comme tout le monde a fait jusque-là, mais qui essaie de vivre lui-même ce que Dieu lui demande, en étant lui-même. Donc la question n'est pas de savoir s'il va porter des chaussures rouges ou des bas noirs. Mais vous voyez, je crois que vraiment, je doute qu'il se pose tellement la question de savoir s'il va avoir des chaussures rouges ou pas. D'ailleurs, on peut supposer que si tant est qu'il en veuille, elles ne risquent pas d'avoir été faites dès le lendemain de son élection. Donc il faut déjà un minimum de temps. Mais je doute d'ailleurs qu'il en prenne. Je pense que ce qu'il veut, et ce qu'il fait, c'est être lui-même. Vous voyez, il ne s'agit pas d'entrer dans une fonction dont tous les costumes, tous les habits seraient prédessinés, prédéterminés, et dont tous les gestes seraient commandés par ailleurs, mais de répondre à ce que Dieu veut, à ce que Dieu attend de lui. Alors, je trouve qu'une chose qui ressort fortement de sa personne, de sa liberté spirituelle, c'est aussi une certaine austérité personnelle. Je pense quand même bien formé aussi dans la compagnie de Jésus, pour avoir un petit peu fréquenté des jésuites, sans me gardant bien de les fréquenter de trop près quand même, eh bien, je pense qu'il y a quand même dans la compagnie de Jésus une certaine habitude, une certaine austérité dans le vêtement, dans la manière dont on vit, dans le cadre de vie lui-même, etc., qui n'est pas qu'un revêtement extérieur, mais une série de choix spirituels qui sont portés à la fois par une institution et par chacune des personnes en elle. Et je crois que nous voyons cela fortement chez le pape François. Je le vois dans sa manière de procéder avec la foule. Je ne sais pas si vous vous souvenez des toutes premières images. C'était presque un peu sidérant quand il est arrivé au balcon de Saint-Pierre. Moi, il se trouve que j'étais dans ma famille. Et moi, j'avais envie de lui crier, mais levez les bras quand même. Il était là, vous voyez, comme pétrifié, bon, ce qui peut se comprendre sans doute. Enfin bon, on a quand même assez vu Jean-Paul II, on avait envie de dire, bon ben quand même, on sait ce qu'il faut faire, et on fait ça, voilà. C'est pas extrêmement compliqué. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans sa messe d'inauguration, comme par exemple le dimanche des Rameaux, il est venu dans une papa mobile, il a repris la papa mobile d'avant l'attentat, donc non plus dans une cage de verre, mais une plateforme ouverte au grand vent, bon. Mais le jour des Rameaux, il est arrivé en habit liturgique, mais assis, presque recroquevillé, comme il a été d'ailleurs dans sa messe d'inauguration. Il me semble, je ne sais pas si c'est le souci qu'il a, mais avec le désir, en tout cas avant la messe, d'entrer très sobrement finalement, et de ne surtout pas susciter d'applaudissements ou de cris d'excitation avant la messe. Et puis visiblement, c'est après la messe, il enlève ses habits liturgiques, il a refait ça à Pâques, et après seulement il fait un tour de... Alors là, pour le coup, il embrasse ses enfants, il caresse les vieilles dames, il sourit aux appareils photos, etc. Bon, voilà. Il me semble qu'il y a là quelque chose, vous voyez, de quelqu'un qui a vécu la messe déjà, qui a célébré la liturgie, avec quand même une forte imprégnation de la compagnie de Jésus, d'une certaine manière de faire, une certaine austérité, que je trouve intéressante à voir. Benoît XVI, lui, c'est un bavarois, donc je pense qu'il aimait bien le baroque, la crème fraîche sur la forêt noire, donc peut-être un peu la dentelle, etc. Le pape François, il est argentin, je ne sais pas si les argentins sont plus rigoureux, ça j'en sais rien, mais en tout cas il est jésuite, et les jésuites sont souvent un peu austères dans leur cadre, je ne dis pas comme personne, parce qu'au contraire on voit bien que c'est un homme simple d'accès, chaleureux, mais vous voyez qui fait tout ce qu'il faut visiblement pour ne pas susciter le moins possible d'excitation de la part de la foule et d'acclamation. Encore sur le balcon de Saint-Pierre pendant la bénédiction Ubi et Orbi, c'était très, très sensible. Et pour ça, il est très différent aussi de Jean-Paul II. Non, pas du tout que Jean-Paul II cherchait à attirer l'excitation, etc. Mais Jean-Paul II vivait plus facilement, certainement, ce contact, cette excitation, ça ne le dérangeait pas. Voilà. On voit bien que Benoît XVI a essayé d'imposer dans la messe le silence, et il a bien réussi ça, notamment pendant les JMJ. Et c'était certainement, ça donnait quelques-unes des images des moments marquants de son pontificat, les grands silences dans la prière. Mais avec le pape François, il y a un rapport à la foule auquel il ne se refuse pas, mais qu'il limite au maximum. Et je vois là une sorte d'austérité, d'ascèse, bien, bien pensée, mais qui témoigne d'une liberté spirituelle, une liberté personnelle. Je crois qu'on a tous les papes ont habité comme ça très personnellement leur fonction, enfin leur charge, voilà. Alors la deuxième chose, c'est évidemment la surprise que représente cette élection. Et comme beaucoup de choses ont été dites, je voudrais me mettre du côté des Romains. Parce que finalement, précisément, le pape François insiste beaucoup sur le fait qu'il a été élu évêque de Rome. Et comme il l'a dit au point de départ, on est allé le chercher très loin. Et finalement, quand on y réfléchit, Rome est un diocèse étonnant dans le monde. N'est quand même pas un diocèse missionnaire, je veux dire, c'est pas un diocèse, c'est pas un pays de mission qui manque de prêts, etc. L'Italie est quand même un pays catholique, mais c'est une ville, Rome, qui pour toutes sortes de raisons accepte que son évêque lui soit donné par des gens qui lui sont extérieurs, mais ça arrive à tous les diocèses, mais en l'occurrence qu'on allait le chercher très loin, et finalement c'est la première fois depuis très longtemps. Il y a eu des moments où les papes n'ont pas été romains ou italiens, mais finalement ils n'habitaient pas Rome. Dans ces cas-là, ils sont prudemment restés à Avignon. Il est arrivé que les papes ne soient pas romains, mais ils étaient quand même italiens. Benoît XVI n'était pas un romain ni un italien, mais enfin ça faisait longtemps qu'il habitait Rome quand même. Donc il y avait une sorte de familiarité, même avec la personne de Benoît XVI. Les marchands de journaux pouvaient raconter qu'ils le voyaient venir acheter son journal, etc. Bon, ce qu'on ne peut pas faire avec le pape François. Et donc il vient de très loin, il faut l'accepter, il faut que les Romains puissent l'accueillir. Et je me demande si une partie de sa manière de faire en ce moment n'est pas une façon, vous voyez, humblement, de se laisser accueillir par les Romains. Je pense qu'il sera assez intéressant de voir ce qu'il va faire, je ne sais plus quand, si c'est samedi, quand il va prendre possession de Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale de Rome, moment qu'il a un peu retardé, enfin il ne s'est pas précipité, disons, parce qu'il a conscience qu'il est évêque de Rome. Vous avez remarqué aussi que quand il est apparu au balcon de Saint-Pierre, il avait à côté du canal Valigny, vicaire de Rome, je peux dire ça parce qu'il l'a raconté au séminariste de Paris, donc on peut penser que beaucoup de gens vont le faire dans Paris. Mais Mgr 23, donc mercredi saint, a raconté au séminariste de Paris qu'au moment où il est parti donc pour aller au balcon apparaître à la foule, il a demandé le canal Valigny et que les cérémoniaires sont allés le chercher parce qu'on ne sait pas où il était parmi les 115 cardinaux. Donc ce n'est pas du tout habituel que le pape prenne nécessairement le vicaire de Rome avec lui, mais il a voulu le faire. Donc il se présente comme évêque de Rome, mais il a conscience qu'il vient d'ailleurs, et il me semble, vous voyez, qu'il est soucieux de se faire accueillir, accepter par les Romains, disons. Et je pense qu'il a conscience aussi qu'il a à apprendre des Romains, cette église de Rome, ce diocèse de Rome, qui ne l'a pas attendu quand même pour qui n'a pas attendu pour vivre du Christ. Alors, de ce point de vue-là, il me semble qu'il rappelle beaucoup de choses, je trouve, de Jean 23, qui était italien, certes, mais pas romain. Donc, il y a, même dans le phénomène médiatique que l'on voit autour de lui, il y a quelque chose qui ressemble à Jean 23, le bon pape Jean. Il y a cette familiarité dans la manière de parler, cette espèce de... Alors, Jean 23, c'était presque quelquefois de la coquetterie d'avoir l'air de faire des sermons dans lesquels on ne disait pas grand-chose, il racontait des histoires qui n'étaient pas théologiquement très, très, très élevées, ce qui n'empêchait pas d'avoir quand même une certaine théologie, et un peu plus même qu'une certaine, une certaine théologie, ni de faire de très grandes choses. Voilà. Mais je trouve intéressant d'observer, donc, pour la première fois depuis très longtemps, comment quelqu'un fait pour devenir évêque de Rome alors qu'il n'est pas italien. Alors que, et c'est assez amusant à repérer, il est quand même plus italien que beaucoup d'autres, puisque comme vous le savez, sa famille vient d'Italie et que ce n'est pas si loin que ça, de ses grands-parents. Voilà, donc vous voyez, je trouve qu'il y a une espèce de quelque chose d'amusant qui n'a pas été du tout pensé, prémédité par ceux qui l'ont élu. Je doute qu'il se soit jamais demandé si, depuis quand il était argentin. Mais... il est quand même aussi un peu italien, quand même. Voilà. Et alors, dans ce lien, enfin, le fait qu'il est évêque de Rome, je voudrais aussi relever quelque chose qui peut paraître, un fait qui peut paraître complètement annexe, mais qui ne l'est pas, je crois. C'est qu'il avait à Buenos Aires, visiblement, un lien assez riche avec la communauté juive de Buenos Aires. Et. Je crois que, enfin, on verra bien ce qui se passe dans l'histoire, mais je pense que c'est rapproché du fait de l'évêque de Rome, successeur de Pierre, et de la foi de Pierre et de Paul. Bon, après tout, l'Argentine est un pays qui ne porte pas le poids de la Shoah comme les pays européens, mais c'est un des pays dans lequel il y a, de fait, alors je ne sais pas si c'est à cause de lui ou grâce à lui ou pas, mais en tout cas, il y a une coopération entre catholiques et juifs qui est assez enfin, d'un niveau, si vous voulez, assez rare en Amérique latine. Et en tout cas, vous savez que le pape François avait fait un livre d'entretien, avait une relation d'amitié assez forte avec, si je ne me trompe pas, le rabbin de Buenos Aires. Donc moi, j'attends avec impatience la traduction de ce livre. Je pense qu'il y aura des choses intéressantes à voir de ce point de vue-là, et que pour son rôle d'évêque de Rome, c'est assez important. Alors, ceci m'amène à mon troisième point, à ma troisième réflexion, je suis trop long, pardonnez-moi, c'est quelque chose sur l'universalité. Parce que finalement, ce qui se passe quand même avec un pape qui, même s'il a des origines italiennes, vient de l'Argentine, c'est qu'il a forcément un autre rapport à l'universalité qu'un Européen. Même si l'Argentine est un pays très occidental quand même, je suppose. Je ne suis jamais allé, donc... enfin, plus occidental que bien d'autres... que d'autres pays, sans doute. Même si lui-même, encore une fois, a des racines italiennes. Malgré tout, vu d'Argentine, on voit un peu le monde différemment. On a une autre manière de synthétiser l'histoire du monde que celle qu'un Européen peut avoir, quelle que soit l'ouverture de cette... De cet Européen. Et là, je pense qu'il y a un enjeu important, un déplacement, comme cela a été dit, qui sera intéressant à voir. Alors, dans cette autre expérience d'universalité, je voudrais situer aussi une caractéristique, disons, de la vie de l'Église en Amérique latine, qui me paraît très intéressante. Ce sont ces grandes conférences de l'épiscopat latino-américain et des Caraïbes, dont la dernière, vous savez, c'était à Aparecida au Brésil, a été ouverte par Benoît XVI, a donné lieu à un document. Mais il y a eu avant Puebla, Medellín, etc. Ce travail de tous les évêques d'un continent ou d'un sous-continent, nous ne le faisons pas en Europe. Je ne crois pas qu'on le fasse en Afrique. Il y a eu des synodes romains sur l'Europe, il y a eu des synodes romains pour l'Afrique, ou le Moyen-Orient, mais finalement, depuis très longtemps, l'Église d'Amérique latine et des Caraïbes a pris l'habitude d'un travail régulier, qui a été en quelque sorte canonisé par la venue de Jean-Paul II et puis de Benoît XVI, qui donne lieu à des documents très consistants, très, très importants, qui ont une tonalité assez, enfin assez propre, assez, assez originale. Et donc c'est une expérience d'un travail entre les églises locales que nous n'avons pas du tout en Europe. Nos instances de concertation européenne n'ont pas du tout cette force. Documents de la Comessé et compagnie n'ont pas du tout le poids des documents de Puebla, de Medellín ou de Aparecida. Donc là, il y a une expérience chez le pape François, nécessairement donc, une expérience d'un fonctionnement de l'Église assez différent d'une autre. C'est peut-être que on parle quelquefois des patriarches, des patriarcats, on évoque le fait qu'on pourrait peut-être faire un patriarche d'Afrique, un patriarche d'Europe, un patriarche de... Mais en Amérique latine, ils n'ont pas besoin de s'inventer d'un patriarche de où que ce soit, et ils travaillent entre évêques, sans avoir besoin, voyez, d'inventer une je ne sais quelle origine historique très, très sophistiquée et assez éventuellement douteuse pour justifier ce travail commun. Alors, dans le travail d'Aparecida, je retiens juste une chose pour quand même laisser du temps pour les questions, c'est que la grande thématique, c'était que les chrétiens sont des disciples missionnaires. Tout le document est orienté comme cela. Voilà. Donc, ce sont deux mots. On peut ne pas en tirer grand-chose. On peut trouver que c'est assez banal. Mais il me semble que ça dessine quand même une certaine figure de l'être chrétien qui est important. Et je voudrais à ça associer encore deux ou trois éléments. Le premier, c'est qu'en Amérique latine, c'est très, très notable, je trouve, dans le document d'Aparecida, on a l'habitude du métissage des cultures. Et ça, c'est nouveau. Nous, Européens, nous savons bien qu'il y a des migrations. Mais nous le vivons toujours comme, je vais prendre un mot peut-être exagéré, mais comme l'invasion d'un facteur extérieur dans une culture qui a sa beauté, sa pureté, et qui peut-être y gagner, mais enfin en attendant, qui se trouve un peu corrompue. En Amérique latine, visiblement, vous voyez, on vit du métissage. Et on sait qu'il y a des Afro-Américains, qu'il y a des Européo-Américains, qu'il y a des indigènes, des autochtones, etc. Il y a de tout cela compose chacune des nations de l'Amérique latine. Donc c'est un rapport, voyez, à la culture et aux cultures complètement différent de celui qu'un Européen, même encore une fois ouvert à l'ethnologie et ouvert de cœur et d'esprit, pourrait avoir. Alors, c'est porté, ce rapport aux cultures, il est porté aujourd'hui par un pape dont la famille a fait l'expérience de la migration, d'être des migrants, de tout quitter et d'aller ailleurs sans espoir de retour. Même si lui n'a pas vécu cela directement, encore une fois, ce n'est pas si loin que ça. Et je trouve ça assez impressionnant. Et là, ça le met, si vous voulez, c'est une expérience qu'il partage avec quelqu'un comme Barack Obama, qui a aussi ce genre d'origine, ou bien chez nous, Nicolas Sarkozy. Je ne veux pas ramener le pape à des personnages politiques, mais c'est quand même assez intéressant. Enfin, vous voyez, moi qui suis un Français, d'une famille française, etc., bon, bien enraciné dans un terroir, je trouve que c'est impressionnant. Le migrant, vous voyez, c'est quand même... Les migrants sont une part importante de notre humanité. Bibliquement, c'est une figure très importante de ce qu'est notre destinée humaine, terrestre. Nous avons un pape pour qui, quand il parle des migrants, s'il fait lui aussi des messages pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, si vous voulez, il ne parlera pas des autres, mais de son grand-père ou de sa grand-mère, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et je crois, là encore, un rapport différent, voyez, au monde, aux cultures, aux situations politiques et sociales. Voilà. Et puis, peut-être je veux dire juste une dernière chose. On a parlé des périphéries, on a dit combien il insistait sur le fait qu'il fallait sortir. Voilà. Moi, je trouve aussi, je suis intéressé par ce qu'il a dit. Quelques journalistes parfois l'ont souligné, sa façon de parler du diable, mais qui n'est pas du tout les diableries, qui est plutôt de l'ordre du discernement des esprits. C'est vraiment la contemplation du règne. Ou bien on est avec le roi humilié, ou bien on est avec le prince de ce monde. Mais il faut choisir. Et il a un sens très fort de cela. Alors, ceux qui s'attendent à des édulcorations du message, etc., risquent d'être déçus ou surpris. Ou... C'est un homme qui a le sens de l'accompagnement. Il faut accompagner les personnes, il faut sortir au loin. Et comme l'a bien dit le père Evé, il insiste, il a déjà fait, mais dans ses recueils de médias, il insiste beaucoup sur le fait que Dieu est présent partout, en dehors. Et nous devons aller à la rencontre des autres pour aller rencontrer Dieu aussi, qui n'est pas seulement dans le secret de nos églises. Mais en même temps, il y a bien, voyez, à choisir, chaque homme doit choisir s'il suit le roi humilié ou s'il suit le prince de ce monde. Et je pense que donc le pape François nous entraînera fortement, sans doute, enfin nous verrons bien, à faire ce choix. Voilà quelques réflexions.
Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces réflexions, pour cette mise en lumière de la dimension personnelle du ministère pétrinien, à travers ce qu'a vécu, jugé, décidé Benoît XVI, à travers ce que nous percevons déjà de la figure du pape François, ce que vous avez dit de la surprise de l'élection pour les habitants de Rome et le souci du pape François de se faire accueillir vraiment comme évêque de Rome, l'expérience de l'universalité avec l'importance du travail en commun de l'Église en Amérique latine qui peut être suggestif pour l'Église dans son ensemble. Quelques thèmes qui apparaissent de ça, les disciples missionnaires, le métissage culturel et puis voilà, cette décision spirituelle de choisir le roi humilié plutôt que le prince de ce monde. Là, on voit une figure du pape qui se dresse à travers ses réflexions. Merci beaucoup. Alors, nous avons une bonne demi-heure devant nous. Je vois que le micro est déjà prêt à circuler. Alors, on va procéder comme on le fait d'habitude. On va prendre deux ou trois questions pour commencer et puis on redonnera la parole à nos intervenants. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas à bien lever la main pour qu'on vous repère. Voilà, d'abord devant. Voilà, levez bien. Très bien. Et après bien. On passera devant, oui.
Je suis l'ancien président de l'espace Bernanos et je m'occupe de promouvoir une vision chrétienne de la création de l'écologie. Alors, je suis quand même surpris que vous n'ayez pas parlé, alors que le pape François, au bout de 40 secondes, il a parlé de ça, et même François Evé n'en a pas parlé.
Ah oui, alors, ça nous a beaucoup déçus. Hein.
Alors, moi, je suis convaincu que l'avenir de l'Église est très largement lié à la façon dont elle pourra gérer tous les problèmes de la création qui sont si difficiles.
D'accord, merci. On va passer devant. Voilà, levez bien la main, voilà qu'on vous voit, merci.
Oui, merci. Alors, quand Jean a appris la nouvelle de l'élection du pape François, d'ailleurs, c'est une protestante qui m'a annoncé ça. Je me suis dit, tiens, le Saint-Esprit n'est pas qu'à Rome. Je me suis dit, mais François, mais il met la barre extrêmement haut et vraiment, quelle exigence. Alors, de tout ce qu'on a dit, il est le premier de ceci, le premier de cela. Il me semble que François, c'est incroyable, ça. Alors, deux questions. Sur la boutique, même si le pape s'adressant aux prêtres, je crois pour la messe chrismale, leur a dit qu'il fallait pas qu'ils soient des gestionnaires, mais des missionnaires. Alors sur la gouvernance de la curie, je pense, pour avoir travaillé 40 ans dans l'administration française, je me dis, même si l'Église ressemble pas à une autre entreprise, mais enfin ça ressemble quand même un peu. Je me dis, il faut des mandats temporaires. Alors, je ne dis pas ça pour le pape, mais pour tous les autres. C'est indispensable. Entre le risque de la sédimentation et la frustration de voir partir le bon, c'est le mandat temporaire. Alors, évidemment, je sais qu'on peut avoir des vieux jeunes, j'espère en être, et puis des jeunes sédimentés. Alors, la deuxième observation ou question, c'est sur le principe de subsidiarité. L'Église a avancé cela et a apporté au monde, si je puis dire, ce concept, repris plus ou moins avec bonheur par l'Europe. En quoi ce principe peut aujourd'hui servir de base de fonctionnement? Parce qu'après tout, vous avez dit que le pape il n'allait pas tout faire, mais il faut quand même qu'il n'empêche pas qu'on soit libre. Et entre le risque d'étouffer les initiatives et celui de faire des bêtises, je choisis le deuxième.
Très bien.
Alors évidemment sur cette libéralisation de la parole, j'en terminerai, je suis un peu partagé parce que quand je vois l'islam mondial par ailleurs, je me dis que de temps en temps, il faudrait quand même qu'il y ait un Vatican qui dise deux ou trois choses pour remettre les affaires en place.
Merci. Une troisième intervention. Alors au milieu, madame, faites passer le micro. Merci.
Moi, j'ai été frappée par le chemin de vérité par Benoît XVI et je trouvais que ce qui se passe au niveau justement de ce que nous apporte le pape François, c'est de faire entre vérité et tradition. C'est-à-dire d'oser se dire que par la vérité ou par l'Esprit Saint, on fait un chemin qui peut changer la tradition parce que c'est, on touche une vérité. L'autre chose, c'est que je trouvais que en prenant un jésuite, juste avant j'avais lu que la responsable des congrégations aurait souhaité quelqu'un d'une congrégation, mais je trouvais que spécialement chez les jésuites, comme chez les hommes jésuites, il y a vraiment le côté du prêtre. Et donc de mettre que notre démarche spirituelle est vraiment liée à l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il y a un sacrement, c'est pas simplement une association caritative. Voilà, donc ça remet le cœur de ça. Et la troisième chose qui, je trouve, c'est qu'au niveau universalité, il y a les problèmes aussi, tout à fait en Argentine, du problème d'égalitarisme qu'on voit par le mariage pour tous, on va pour simplifier, et que cette notion de la place, je pense que par le chemin de vérité qu'on voit avec Benoît XVI ouvert, il y a peut-être un chemin de vérité que l'Église pourra faire aux yeux du monde, comme on a fait aussi par rapport à la pédophilie, de dire que la femme, il y a un chemin pour trouver la femme qui n'est pas comme l'homme, non identitaire, et que vraiment je pense qu'il y a un chemin où l'Esprit Saint, avec un chemin de vérité, trouver la place qui pour moi n'a pas à être avec le sacerdoce, mais qui a trouvé quelque chose de tout à fait innovant.
Merci beaucoup pour vos remarques. On va s'arrêter là pour l'instant, et puis on va commencer à répondre aux questions, et on reprendra une nouvelle série de questions après. Alors on va commencer peut-être par l'écologie. François, je ne serai pas étonné que je m'adresse à toi.
Oui, je fais amende honorable. Dans ces cas-là, on dit toujours, mais on ne peut pas parler de tout. Alors, mais enfin, c'est pas une raison. De fait, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que j'ai vu mentionner effectivement ça, ces allusions. Dans les textes que j'ai pu lire de lui, je n'ai pas tellement retrouvé des éléments ou même d'action autour de ça. Cela dit, c'est bien évident que ça fait partie des grands chantiers. Ça me semble tout à fait clair pour aujourd'hui. Et je crois à ce sujet-là. Qui me semble tout à fait important que les chrétiens soient engagés dans les grands débats de société, ce qui est déjà le cas dans tous les grands débats de société, et que ce soit autour de la mondialisation, développement du modèle néolibéral, etc., et la question de l'écologie étant peut-être assez synthétique finalement dans ses caractéristiques des grands débats actuels. Donc je pense que, alors, on a attendu une encyclique sur l'écologie, peut-être qu'elle va venir avec lui.
Peut-être sur, vous pourrez évidemment ajouter à ce qui vient d'être dit, mais peut-être sur la question de la gouvernance de la curie, principe de subsidiarité, oui. Question des mandats peut-être.
Ouais, c'est vrai, c'est ce que je disais par rapport à c'était une volonté de Paul VI déjà, hein, de dire que les gens ne devaient pas rester plus de 6 ans ou 9 ans, en tout cas pas plus, à la curie. Et puis, il y a des principes de gestion. Il y a des principes de gestion humaine, enfin de gestion managériale tout bête qui pourraient être appliqués à la curie. C'est-à-dire que c'est vrai que les choix ne sont pas toujours des choix de compétences. Il n'y a pas d'organisme de ressources humaines à la curie. Il n'y a pas de gestion de carrière. Il n'y a pas de salaire au mérite, évidemment. Mais en tout cas, que les gens soient performants ou pas performants, qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas. Finalement, c'est un peu la même chose. Alors, il y a quelques gens qui travaillent beaucoup. Et puis, c'est vrai ce que disait Jean 23, combien de gens l'a curé ? Au moins la moitié. C'est vrai. Je pense qu'on peut assez facilement quand même améliorer la gestion. Sur la création, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a parlé de toute la création. Et ça, c'est important. Hein. C'est-à-dire, c'est pas simplement, c'est ce qu'on appelle l'écologie humaine. Enfin, il a parlé de la création de l'homme et voilà, c'est le même mouvement. Ce que disait d'ailleurs déjà Benoît XVI. Hein. Benoît XVI parlait beaucoup de la création. On avait dit que c'était un pape vert. Sur la subsidiarité, effectivement, c'est un peu ce que j'essayais de dire dans, lorsque j'ai parlé de est-ce qu'on va pouvoir être pape autrement. Donc là, en tout cas, il est certain qu'au moment des congrégations générales, un certain nombre de cardinaux nous ont dit c'est vraiment ce qu'on va demander. En tout cas, c'est de pouvoir mettre un peu de casuistique, disait-il même, ou en tout cas de laisser plus de marge de manœuvre aux épiscopats locaux, que tout ne soit pas réglé par Rome, réglementé par Rome, ou empêché par Rome, parce que finalement, la curie romaine, c'est tout petit, ils ne peuvent pas tout, mais en tout cas, ils peuvent sacrément empêcher. Donc voilà. Et c'est vrai qu'au moment des congrégations, ça, c'est beaucoup revenu, d'avoir quelque chose qui donne plus d'espace, en tout cas, aux épiscopats locaux et aux églises locales.
Monseigneur.
Oui, sur la question de la curie, il me semble qu'il faut être conscient que le changement à vivre ne concerne pas que la curie, mais l'ensemble des catholiques du monde. Parce qu'il y a à toutes sortes de niveaux chez les catholiques, pas seulement chez les clercs, mais aussi chez les clercs, et de façon assez diverse, mais le père Revel l'a dit, quelquefois on attend un peu beaucoup du pape, on attend beaucoup de Rome, soit pour pouvoir critiquer son évêque, au contraire pouvoir le suivre, enfin bon. Donc, il y a une certaine façon de se relier au pape, hein, ou de considérer le pape un peu comme le curé du monde, si vous voulez, qui entraîne les résultats que l'on peut voir, qui ne sont pas forcément uniquement catastrophiques. Mais... Donc, il y a une transformation, vous voyez, qui concerne un peu tout le monde. Et je suppose que, justement, la manière de faire du pape François, sa manière de... que j'essaie de décrire, de sa gestuelle, etc., vous voyez, veut contribuer à ce changement du regard un peu de tout le monde. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que ce qui est dit, les dysfonctionnements qui sont indiqués, puisque ce qui a été dit sur la nécessité d'avoir des mandats limités, etc., c'est un problème de toute organisation humaine, parce qu'on pourrait dire la même chose de nos députés ou de nos sénateurs. On voit combien il est difficile de mettre fin au cumul des mandats. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a de bonnes raisons de se dire, mais finalement, ces mandats cumulés, ça a des avantages, etc. Donc, se dire qu'il faudrait que tous les citoyens, que tout le monde puisse, que ça tourne, que les fonctions tournent, que tout le monde puisse tourner, c'est aussi dans nos paroisses. Hein. Combien nos paroisses sont organisées avec des bénévoles qui sont là, et puis comme ils font très très bien les choses, ils sont là pour toujours. Hein. Jusqu'à ce qu'un arrêt cardiaque les prive définitivement de pouvoir faire ce qu'on leur demande depuis toujours. Bon, donc si vous voulez, il y a des choses à faire, mais bon. Il faut être conscient que malgré tout, ce qui complique un tout petit peu le système, c'est comme à l'échelle d'un diocèse d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas renvoyer les gens. C'est-à-dire on ne peut pas renvoyer les prêtres. Hein. Vous voyez, dans un diocèse, on ne peut pas les virer en disant il est incompétent, qu'il aille ailleurs. Bon. Donc ça complique beaucoup la vie dans l'Église et la gestion des ressources humaines, et ça mène beaucoup de promotions par incompétence. C'est-à-dire que la meilleure manière de se débarrasser de quelqu'un à ce moment-là, c'est de le promouvoir à un poste supérieur.
Oui,
je dis ça pour moi aussi d'ailleurs, comme vous pouvez le...
Il faut quand même noter, il y a un phénomène qui est propre à la curie romaine, qui militerait pour des mandats quand même plus courts, c'est que c'est vraiment des gens coupés du monde. Et ça, je l'ai vécu. Bon, la personne, le curé de paroisse, il est quand même au contact des gens, les gens qui traînent la paroisse, etc. Et vraiment, le drame de la curie romaine, c'est que ce sont des gens qui ne sortent pas. Enfin, les murs du Vatican, c'est quelque chose dans les têtes aussi, quoi. Et ils sont pleins de bonne volonté, mais... parfois, ils vous tiennent des discours qui prouvent qu'ils ont rarement été au-delà de Rome. Donc il y a vraiment, non mais c'est vrai, ils sont vraiment parfois un peu coupés du monde. Donc c'est pour ça, je crois qu'il faut pas rester trop longtemps là-bas parce qu'on est vraiment coupés du monde, quoi.
Comme dans les ministères, voilà. Peut-être sur la question de la vérité, tradition. Je suis pas sûr d'avoir bien vu toute la pointe de votre propos, mais on peut peut-être quand même dire quelque chose. François.
Oui, peut-être sur la notion de tradition, parce que là aussi, c'est partie des mots qu'on emploie et sans forcément être au clair sur ce qu'on met derrière. Souvent, tradition est assimilée à une sorte de permanence, de continuité, voire voilà, c'est ce qui a toujours été fait, ce qu'on a toujours fait. Bon. Or, je pense que l'importance de la connaissance de l'histoire de l'Église, nous montre que précisément le christianisme, comme du reste enfin, toute religion biblique, est profondément inséré, incarné, réalisé dans une histoire. Et que la dimension historique est fondamentale. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tous les jours on réinvente l'Église, mais néanmoins il y a cette dimension là aussi événementielle, surprenante parfois, des manifestations de l'esprit. Donc la notion de tradition doit être comprise dans cette perspective là pour éviter de tomber dans le travers fondamentaliste finalement qui consisterait à vouloir pérenniser des choses. Alors c'est toute la difficulté, c'est pour ça que l'Église est dotée de structures des bases de réflexion, de discernement pour identifier ce qui est opportun et ce qui ne l'est pas. Mais est-ce que si c'est juste de répéter, on n'aurait pas besoin finalement on aurait besoin d'instances qui contrôlent la répétition, mais pas qui authentifient ce qui se passe. Donc je crois qu'il y a vraiment à prendre conscience de ce que signifie authentiquement la tradition. Donc, quelqu'un comme le père de Lubac peut nous y aider.
Voilà, on va reprendre peut-être une série de questions. Oui, on va prendre une question qui nous vient de Bordeaux. Voilà, parce qu'on est vraiment tout à fait à la pointe de...
À Bordeaux, une question a été posée sur comment vont cesser le VATILIX. C'est-à-dire qu'Isabelle de Goldman avait dit que ça s'était
Parlez bien fort dans le micro.
On m'entend pas.
Allez-y, parlez bien fort.
Donc du coup, il avait été dit que les tensions suite au VATILIX allaient s'apaiser, ou s'étaient apaisées, et il y a une incompréhension. Comment cela a été possible? Et comment le pape François pourra encore contribuer à apaiser ces tensions?
Très bien, merci. Une autre question en remontant. Voilà.
Oui, il est bien...
Parlez bien dans le micro, oui.
Oui, plus près.
Oui, allez-y.
Il est bien connu qu'un des grands malaises de nos contemporains par rapport chrétien ou non chrétien, mais aussi chrétien, par rapport à l'Église et à l'institution, provient de ce qu'on pourrait appeler la morale individuelle, sexuelle, sociétale. Madame a parlé des divorcés et remariés, mais vous en avez les uns et les autres très peu parlé. Les problèmes de la contraception, les problèmes de tous ces problèmes-là qui hérissent le plus souvent bon nombre de chrétiens aussi. Et vous avez parlé des femmes, vous avez évoqué aussi. Mais je crois que vous avez très peu abordé ce sujet qui est pourtant extrêmement présent, alors peut-être plus dans nos types de sociétés européennes, je ne sais pas. Mais il me semble qu'on ne peut pas l'éluder. C'est
très
impensable.
Bien. Merci beaucoup. On va continuer à monter. Faire monter le micro plus haut et au milieu, voilà. Levez la main pour qu'on vous voie, voilà.
J'aimerais bien savoir comment vous voyez l'exercice de Benoît XVI par rapport à ce que semble faire le pape François. Parce que pour reprendre une image de l'Évangile, est-ce qu'à votre avis, Benoît a plus... labourer le terrain, semer, arroser. Et où en sommes-nous avec le pape François aujourd'hui?
Très bien. Pour l'instant, il n'a pas eu beaucoup de temps encore. Hein, mais... voilà. Alors, on va essayer de reprendre les affaires, les scandales. Comment tout cela va cesser?
Déjà, je pense qu'il y a... On va voir qui va choisir comme secrétaire d'État, en fait. C'est ça qui va être important. C'est-à-dire que manifestement, le cardinal Berton n'arrivait plus à tenir ses troupes, à tenir la curie, et donc il avait beaucoup d'ennemis à l'intérieur qui sortaient des choses, etc. Donc il est à mon avis important qu'il arrive à se doter d'un bon secrétaire d'État, c'est-à-dire un premier ministre qui remette un peu de paix là-dedans et arrive à obtenir un certain consensus de façon à ce que ce qui doit rester secret reste secret et ne sorte pas comme ça tous les jours. Il y a peut-être aussi une manière de mieux distinguer ce qui appartient à l'Italie et ce qui appartient à la curie romaine. Et parce que c'est vrai qu'on a eu le sentiment politiquement et au niveau des affaires immobilières, etc., que les intérêts étaient souvent très mêlés. Et bon, Vatilix, c'était beaucoup ça aussi. Hein. C'était des affaires immobilières, des vengeances sans doute plus politiques qu'autre chose. Donc le cardinal Berton avait pris des positions assez fortes dans la politique italienne. Et peut-être que là, il va y avoir un peu une amélioration. Donc voilà. Mais je crois que ça va être peut-être aussi plus de transparence dans les modes de décision. En fait, comme je disais, c'est que c'est à la fois difficile, à la fois pas très difficile, parce que c'est une petite structure. Donc il suffit qu'ils changent quelques hommes pour que des choses changent. Vous savez, rien que le fait quand il a voulu payer sa chambre, donc il a fait ça vraiment devant les caméras. Hein. Ça, c'est très important, parce qu'il y a quand même des cardinaux qui vivent à Rome, on a l'impression que tout leur est dû, et sur un train de vie, en utilisant des voitures, etc. Bon. Et donc là, c'était quand même un petit signe. Je pense qu'il a fait ça, c'était pas innocent, quoi. Voilà, des choses comme ça.
Merci. Alors peut-être sur les questions de morale, Monseigneur. Au hasard. Oh,
ouais. Bah, écoutez... Je cherche du regard la dame qui a posé la question. Ah voilà, pardon, madame. Vous avez raison que c'est des questions qui se posent, qui empoisonnent un peu les choses et qui méritent d'être toujours réfléchies, dans lesquelles il faut accompagner fortement le peuple chrétien. Moi, j'ai du mal à dire, je ne peux pas faire de prévision sur ce que le pape va dire ou faire. Je ne sais pas comment, moi, je n'ai pas d'éléments pour savoir comment il a fonctionné comme archevêque de Buenos Aires sur ces questions-là, si d'ailleurs il a eu un fonctionnement particulier. Ce que je sais, c'est que dans ces homélies telles qu'elles sont présentées là, dans ce livre qui vient de paraître, donc ce n'est jamais qu'une petite sélection, comme dans les documents d'Aparecida et compagnie, d'abord, il y a une forte insistance sur la décomposition de la société, avec, et d'autre part, une forte insistance sur la famille, avec dans la famille le rôle que le père de famille doit accepter de jouer, la responsabilité du père de famille, la responsabilisation des pères de famille. Évidemment, par conséquent, le rôle des femmes qui est toujours présent, mais que précisément, auquel précisément il faut redonner, enfin, dont il faut être conscient, voilà, et auquel il faut donner tout son éclat. Et il y a toujours une forte dénonciation sur le premier point, sur la décomposition de la société. Il y a de fortes affirmations sur donc non seulement les inégalités sociales, la drogue, la prostitution, le tourisme sexuel. Et tout ça, c'est des mots auxquels visiblement un évêque ou un archevêque en Amérique latine se trouve très très fortement confronté. Ce n'est pas simplement des marges, vous voyez, de la société. Et quand il insiste, quand le pape François insiste sur le fait qu'il faut sortir à la périphérie, quand on nous raconte qu'elle est célébrée la messe dans des bidonvilles, bon, je pense qu'il a voulu être toujours très, vous voyez, très conscient et très au courant de ces affaires-là. Il insiste aussi beaucoup sur le fait qu'il faut accompagner les personnes. Et je pense que c'est peut-être ça qui peut nous apporter. C'est que, parce que je n'ai jamais vu, mais encore une fois, je n'ai pas fait d'études et il ne m'a jamais fait de confidence, donc je n'ai jamais rencontré. Donc je ne sais pas s'il envisagerait ou s'il voit d'autres manières de présenter la morale de l'Église. Personnellement, j'en doute. Je pense qu'il va vite paraître très traditionnel sur ce point-là. Sur la question du mariage pour tous, il a une position très, très ferme. Donc je ne pense pas que sur le fond des choses, il apporte des changements. Mais en revanche, sur la compréhension de ce que c'est que l'accompagnement des personnes et des situations, là peut-être qu'il peut nous aider et ouvrir des pistes. Mais je vous dis ça, moi, encore une fois, je n'ai pas recueilli ses confidences sur le sujet, ni même, je n'ai pas idée de ce qu'il a pu raconter en Amérique latine sur ces sujets-là, dans les débats qui ont pu avoir lieu. Je pense que ses positions publiques sur tous ces sujets ont été toujours assez fermes, celles de l'Église, telles qu'elles sont, accompagné donc d'une forte critique des facteurs de décomposition de la société, en particulier parce que c'est l'époque dans laquelle il se trouve, de l'invasion d'une certaine idéologie néolibérale et de l'influence de la télévision, enfin, vous voyez, des loisirs. Il dit à un moment donné, il dit des choses là-dessus. Et dans le document d'Aparecida, c'est dit aussi avec force. On est devant les structures traditionnelles de transmission ne fonctionnent plus ou fonctionnent mal à cause de l'invasion, y compris dans les familles, de la télévision et de tout ce qu'elle transporte et toute une culture du loisir avec l'hédonisme, etc., qu'elle transporte. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le pape François lui-même. Après, qu'il y ait là un vaste chantier, ça c'est certain.
Merci. L'œuvre de Benoît XVI, ce que François a à faire, est-ce que Benoît XVI a semé, est-ce que François va récolter ?
La semence a commencé il y a bien longtemps. Il y a certainement des... Je pense que le pontificat de Benoît XVI est certainement à relire. Enfin, il n'a pas porté tous ses fruits. Je crois que il y a... C'est pas une page qui se tourne. Enfin, je veux dire, il y a quand même une dimension de relecture. Alors évidemment, les Ignatiens aiment bien la relecture, mais je crois que c'est pas simplement un mot facile. Il y a quelque chose à prendre en compte. Quant au style, je dirais, il y a effectivement, autant qu'on puisse voir, un style pastoral, parce qu'il rejoint la notion d'accompagnement mentionnée à l'instant, c'est-à-dire Le style pastoral, c'est pas un style qui se laisse aller ou qui justifie tout, mais qui est sensible justement aux personnes, à la singularité des personnes, la casuistique au sens fort du terme, c'est-à-dire les situations morales sont toujours des situations singulières. Donc c'est toujours difficile de... On a besoin de normes, je crois qu'il ne s'agit pas de renoncer aux normes, on a besoin de normes, mais il faut savoir que toute situation humaine est toujours singulière. Donc il y aura toujours un conflit entre les valeurs. Et donc il y aura toujours en situation à gérer ces difficultés. Et je crois que l'art justement du pasteur, c'est à la fois sans doute de rappeler les normes, mais peut-être plus fondamentalement d'encourager les personnes à vivre leur vie humaine. On sait bien que toutes ces situations sont complexes, et puis elles dépendent beaucoup de considérations culturelles. Des situations valables dans un pays ne sont pas transposables dans un autre. Donc, c'est ça qui est très délicat. Et là aussi, ça plaide pour la subsidiarité.
C'est sûr que tu es bien jésuite, je trouve.
On ne se refait pas.
On ne se refait pas. Isabelle, je crois que tu voulais ajouter quelque chose.
Moi, je suis très frappée de la... des résonances entre la première encyclique de Benoît XVI et ce que peut dire aujourd'hui le pape François, je trouve qu'il était une encyclique sur l'amour, hein, l'amour et la charité. Et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Donc moi, je vois vraiment une grande continuité, pas de style, hein, mais en tout cas sur le fond, entre ces deux papes.
Alors, personnellement, je dirais la même chose. Je pense que c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des fins un peu Jean XXIII. Parce que Jean XXIII et le concile Vatican II qu'il a ouvert ne se comprendraient pas sans Pie XII. Et l'approfondissement doctrinal que Pie XII avait rendu possible. Alors, on a deux hommes de styles très différents, c'est comme Pie XII et Jean XXIII, si vous voulez. Ça peut être encore plus marqué entre Pie XII et Jean XXIII qu'entre Benoît XVI et le pape François. Mais je pense que sur le fond, on se rendra compte, en reprenant les choses, qu'un certain nombre d'intuitions, de lignes de force du pontificat de Benoît XVI auront rendu possible ce qui va être fait dans ce pontificat-là. En particulier, Benoît XVI a voulu avoir un pontificat, une manière modeste, peut-être que c'est paradoxal, mais c'est vrai, de remplir la fonction pétrinienne. Et ça s'est assez fortement vu dans les relations écuméniques, par exemple, en tout cas avec les orthodoxes. C'est des petites choses, hein. Alors, il y a un système dont il n'a pas voulu sortir, je ne sais pas. Mais lui-même, je crois, a voulu beaucoup faire baisser le niveau d'attente à l'égard du pape. Voilà. Et en même temps, il faut bien reconnaître, et on l'a encore vu ces dernières semaines, et ça a été dit tout à l'heure, il y a une attente très très forte à l'égard du pape, c'est-à-dire que l'humanité a quand même besoin, visiblement, enfin on ne peut que faire le constat, de cette, cette personne qui peut s'adresser au monde entier. Parce que finalement, si le pape parle au monde entier, c'est parce que les médias le relaient, hein, et le relaient de manière assez étonnante. Alors je suppose que le contraste et en même temps la complémentarité entre le décor baroque de Rome et le message évangélique, donc une espèce d'écrin plus ou moins paradoxal à ce message évangélique, compte beaucoup. Donc si vous voulez, le pape, je crois que Benoît XVI a voulu avoir, a posé des bases assez fortes pour ce qui va se passer maintenant. Mais nous le verrons à l'usage.
Voilà, il est un peu 21h passées, nous allons respecter nos horaires. Merci à nos intervenants pour ce qu'ils ont témoigné aussi de leur perception de l'Église aujourd'hui. Je crois qu'au-delà de la joie très grande de cette élection partagée, bien au-delà que les jésuites et leurs amis, il y a pour nous tous une invitation à renouveler notre désir de faire vivre l'Église et donc de soutenir aussi le nouveau pape dans sa charge. Nous nous retrouverons, si vous le souhaitez, le mardi 14 mai pour la prochaine soirée d'éthique publique sur la contribution spécifique de l'enseignement catholique pour le devenir de l'école en France. Merci de votre fidélité. Bonne fin de soirée. Des corbeilles sont à votre disposition à la sortie. Merci.